Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une analyse approfondie d'une nouvelle métrique qui commence à faire parler d'elle. L'IGDHDS, c'est l'indice global des droits humains et du développement durable. On se base sur des travaux présentés par Carlos Medel.
Tout à fait.
Notre but ici, c'est de décrypter un peu cet indice. Il a une ambition assez forte, réunir droits humains et développement durable, en une seule mesure.
Oui, c'est une tentative de répondre à des défis mondiaux qui sont bas, de plus en plus liés, hein. Le climat, les inégalités, même la démocratie qui recule parfois.
Et ce qui est vraiment intriguant, c'est qu'il ne fait pas que mesurer. Il essaye de capter la complexité, les dynamiques un peu imprévisibles des sociétés.
Et même de simuler des scénarios futurs, potentiellement.
Exactement. Alors, prêt à creuser ça?
Allons-y. Pour bien comprendre l'IGDHDS, il faut peut-être le replacer dans un contexte. On vient de loin avec les indicateurs.
Oui, il y a eu plusieurs étapes.
Bah oui. Après la Déclaration universelle de 48, on a eu l'IDH en 90, puis les objectifs du millénaire en 2000, les ODD en 2015. L'IGDHDS, qu'on envisage pour 2025, lui, il vise vraiment ce chaînon manquant, le lien explicite entre droits humains et durabilité.
D'accord. Et au cœur de tout ça, il y a cette notion de système adaptatif complexe. Alors, si je comprends bien, ça veut dire qu'on arrête de penser que les sociétés évoluent de manière simple, linéaire.
C'est exactement ça. On reconnaît que les sociétés sont comme des systèmes vivants. Des petits changements peuvent avoir des effets énormes, inattendus. Positifs ou négatifs, d'ailleurs.
Un effet papillon, en quelque sorte.
Un peu, oui. Pensez, une petite réforme éducative qui, des années plus tard, change complètement de marché du travail. Les indices classiques, souvent, ils additionnent juste des choses. Ils ratent cette non-linéarité.
Et l'IGDHDS, lui, il essaye d'intégrer ça.
Il essaie, oui, d'intégrer cette complexité systémique.
Concrètement, comment il s'y prend? Quels sont les ingrédients de cet indice?
Alors, il est structuré autour de 6 grands domaines. Ils sont interdépendants, bien sûr.
D'accord.
On a d'abord les valeurs éthiques et la gouvernance, VGF. C'est la confiance dans les institutions, la perception d'équité.
Ok.
Ensuite, GVDH, l'état réel des droits humains sur le terrain, les violations, l'accès à la justice, ce genre de choses.
D'accord, très concret.
Puis LSP, la législation, est-elle progressiste? Loi sociale, droit du travail. Après, ESPM, la stabilité politique, les conflits internes, l'efficacité du gouvernement.
Logique.
COC, la capacité organisationnelle, l'efficacité de l'administration, la coordination. Et enfin, DSC, les droits sociaux, économiques et culturels, santé, éducation, protection sociale. Les fondamentaux.
Les bases, oui.
Et tout ça repose sur des définitions claires. Hein. Droits humains, comme garantie pour la dignité, et développement durable pour répondre aux besoins actuels, sans plomber l'avenir.
6 domaines, donc. Mais alors, comment on arrive à une note finale? J'imagine un calcul hyper complexe.
Eh ben non, détrompez-vous. C'est une des surprises. Le score final, c'est juste la moyenne simple des notes des 6 blocs. Chaque bloc est noté sur 10.
Une moyenne simple. Pourquoi si simple alors?
Justement, pour la transparence, pour que ce soit facile à comprendre, à répliquer par d'autres. Et surtout, pour éviter les débats sans fin sur combien pèse tel ou tel domaine.
Éviter la subjectivité des pondérations.
Voilà. La complexité, elle est dans la mesure de chaque bloc, pas dans l'addition finale.
C'est malin comme approche. Alors, qu'est-ce qui le rend vraiment différent des autres indicateurs, à part cette approche systémique?
Plusieurs choses, en fait. D'abord, il met vraiment les droits humains et la stabilité politique au premier plan, au même niveau que l'économie ou le social. Souvent, ailleurs, c'est un peu annexe.
Oui, c'est vrai.
Ensuite, on l'a dit, il adopte cette logique de système complexe, pas juste une somme linéaire. Et puis surtout, il ne fait pas qu'une photo à un instant T. Il est conçu pour pouvoir faire des simulations, explorer des scénarios, le fameux « et si ».
Ah oui, cette capacité de simulation, ça change la donne.
Absolument. Et enfin, il est pensé pour être flexible, utilisable à différentes échelles. Pas seulement au niveau national, mais aussi régional, local.
Très intéressant. Et il y a aussi une dimension un peu plus philosophique, non? Derrière la création de cet outil.
Oui, tout à fait. Créer un indice, ce n'est jamais juste technique. C'est un choix. On décide ce qui compte, ce qu'on considère comme réel, comme important à mesurer pour évaluer le progrès.
On construit une certaine vision de la réalité.
Exactement. L'IGDHDS, il reconnaît que la réalité sociale, elle n'est pas fixe. Elle est façonnée en permanence par les gens, les agents et les structures économiques, légales, culturelles. C'est une vision dynamique du progrès.
Donc, pour résumer, l'IGDHDS se présente comme un outil vraiment ambitieux pour évaluer le développement humain de façon plus globale, plus dynamique.
Oui.
Il insiste sur le fait que droits humains et durabilité sont liés, indissociables même. Et il essaie d'intégrer la complexité du monde réel.
C'est ça. Et il faut bien noter que c'est un projet en développement. Il y aura des phases de tests, des ajustements. Il est fait pour être évolutif.
Un outil qui apprend, en quelque sorte.
Oui, on peut dire ça.
Bon, ça nous laisse avec une dernière question, une pensée à emporter. Si un jour, un indicateur comme celui-là, capable de modéliser la complexité, les effets émergents, était vraiment adopté partout, comment ça pourrait changer, pas seulement les politiques publiques, mais peut-être même notre idée fondamentale de ce que ça veut dire progresser en tant que société?
C'est une excellente question, en effet. Ça pourrait potentiellement tout changer.